À nouveau le psaume 23, si vous voulez bien, merci. Le PowerPoint s'affiche. On va faire deux lectures ce matin. La première, c'est de reprendre à nouveau le psaume 23. Nous avons encore quelques facettes, quelques perles extrêmement précieuses à sortir de ce texte. Et puis, on lira un autre psaume tout à l'heure en parallèle, pour des pensées complémentaires. Psaume 23, cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Allah, il ne dit pas « il ». Là, il dit « tu ». Il y a très vraisemblablement une intimité qui s'est accrue, qui a grandi entre la brebis et son berger. Il n'y a plus de « il », il y a toi. Tu es avec moi. Ah, on a une autre dimension de relation ici. Ta houlette, et non pas sa houlette, ta houlette, ton bâton me rassure. Tu, ah, il n'y a plus de huile. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Nous avons vu ensemble, frères et sœurs, dans ces deux derniers dimanches, que le premier chemin de restauration dans notre thématique, il restaure mon âme, le premier chemin de restauration, c'est la table du berger, parce que cette table est un symbole de communion, d'intimité. Dieu nous adresse une invitation et il nous appelle à sa table. Une communion qui soit été peut-être défaillante, peut-être inexistante, je ne sais, sans faire de reproches, ou peut-être une communion qui avait été brisée, qui en avait pris, comme on dit, un sérieux coup sous la puissance des coups et de l'adversité. Et c'est un symbole de communion qui a été établi, voire rétabli. Et puis la table me parle de mon besoin d'être bien nourri, d'être désaltéré, d'être fortifié. La table, on l'a vu, me permet de considérer celui qui est assis en face de moi. Il y a mes adversaires, il y a mes ennemis, il y a des circonstances, des difficultés, oui, mais en face de moi, pourquoi le Seigneur, excusez-moi, il plante une table, excusez-moi de le dire ainsi, il se plante juste devant moi, parce que s'il faut que je le voie et que je le considère lui, avant de considérer l'adversité. Et je suis là, dans une intimité, dans une belle communion, en tête à tête, à table, avec le berger de mon âme. Et puis on a vu aussi, quatrièmement, que cette table, elle est là aussi pour m'empêcher de foncer. Mon âme a envie d'y aller. Mon âme a envie soit de se morfondre, soit de dégommer tout le monde. Mais dans les deux cas de figure, c'est pas bon. Et cette table, quand le Seigneur me dit « Non, 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 ne bouge pas, assieds-toi à ma table, assieds-toi avec moi », cette table m'empêche de foncer tête baissée et de tout gérer par moi-même. C'est ce que l'on a vu. Vous savez, frères et sœurs, je l'avais pas dit la semaine dernière, j'insiste sur ce point. Il y a dans la parole, c'est biblique, des déserts dans lesquels le Seigneur nous conduit. Mais il y a des déserts, pardon, dans lesquels on s'est mis tout seul. Il y a des tempêtes dans lesquelles le Seigneur nous a conduits, mais il y a des tempêtes que nous avons générées par nous-mêmes. Il y a des déserts dans lesquels nous nous sommes mis, que nous avons aggravés. Il y a des tempêtes que nous avons aggravées. Il y a des situations, des blessures, pardon, que nous avons nous-mêmes, parce que nous n'avons pas réagi bibliquement parlant. Il y a des blessures que nous avons aggravées. Et là, en réalité, le Seigneur me dit, arrête, viens, pose-toi à ma table. Ça va t'éviter d'entretenir des déserts, soit d'aggraver des situations, des tempêtes, des blessures qui sont déjà compliquées. C'est comme si le Seigneur me disait, sois sage, pose-toi, arrête-toi à ma table, réfléchis. Parce que selon ce que tu vas faire, tu vas te mettre la double peine. Bonjour frères et sœurs, nous sommes le dimanche 5 octobre, il est 10h30, bienvenue au culte. Eh oui, Cette table, on l'a vu la semaine dernière pour ceux qui n'étaient pas là, cette table, elle a un rôle stratégique. Parce qu'une fois qu'on avait mangé, on avait pris des forces, bien sûr, ensuite, on va marcher. Bien sûr, une brebis qui est remise sur pied, c'est pour qu'elle marche. Amen, dans les voies de Dieu. Elle ne peut pas marcher n'importe où. Elle ne peut pas marcher n'importe comment. Donc, il y a l'endroit d'où je pars, on l'avait vu la semaine dernière, et l'endroit où je veux aller, spirituellement parlant. Et c'est là qu'une fois qu'on avait fini de manger, la table, ce n'est pas terminé. On sort le plan. Et une fois qu'on sort le plan, là, on va définir un itinéraire qui va garantir que j'arrive à destination, là où Dieu veut m'emmener, que je ne me perde pas. Et c'est ce qui nous a amené à parler des sentiers de la justice. Il faut consulter le plan. Le plan, c'est la parole de Dieu. Et elle me donne, non pas des boulevards de facilité, non, il n'y a pas d'autoroute ou d'avenue de je ne sais quoi. La parole de Dieu me conduit dans des chemins. Jésus dit... étroit, resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y a ces sentiers de la justice. La justice, je vous le rappelle bien aimé, la justice, c'est pas de donner 10 euros à mon fils et 10 euros à ma fille. Ça s'appelle de l'équité. La justice dans la pensée de Dieu, c'est d'être convenablement positionné. Rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire chercher à toujours bien vous positionner par rapport aux principes qui sont révélés dans la parole de Dieu. Que ce soit en hébreu comme en grec, les PowerPoints sont à votre disposition là-bas, le message est sur Internet, en hébreu comme en grec, la justice me parle de droiture, d'intégrité, de vertu, de pureté de vie. C'est d'avoir une attitude, des actions, des réactions, des choix, des pensées, des paroles qui sont bien alignées sur le caractère de Dieu, sur sa nature et sur sa volonté. C'est ça la justice, c'est d'être conforme au cœur de Dieu, en tout point, en toute chose. Et c'est ce qui va faire qu'on va être approuvé de Dieu. La question, mon bien-aimé, dans tes situations, c'est pas de savoir si tu as raison ou tu as tort. La question, c'est de savoir est-ce que tu as des attitudes qui permettent à Dieu de t'approuver ou de te désapprouver. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Est-ce que dans ton cœur, tu es sûr que ce que tu as dit, ce que tu as fait, ce que tu as répondu, la façon dont tu l'as fait. Es-tu sûr que Dieu, en te regardant, peut te dire, bien sûr, il t'aime, il t'aimera toujours, qu'il peut te dire, je t'approuve et tu auras la bénédiction pour cette prise de position. La justice, c'est d'avoir des attitudes qui soient conformes au cœur de Dieu, que Dieu va pouvoir approuver et bénir. Et vous savez que, par définition, un principe, c'est un principe. Un principe est valable pour tout. Il est valable pour tous, un principe est valable tout le temps, même dans l'adversité, même dans mes blessures, même dans mes difficultés. Le Seigneur ne me permet pas d'agir ou de réagir n'importe comment. Ce sont toujours ces principes, parce que ce sont des principes de guérison, de vie et de bénédiction, ce sont ces principes qui doivent prévaloir dans ma vie, dans mes pensées et dans mon positionnement spirituel. Ça, ce sont les sentiers de la justice. Ce matin, je parle un petit peu avec vous de ce point avant qu'on fasse une lecture complémentaire. On ouvrira le psaume 57 tout à l'heure. David dit « Quand je traverse, quand je marche ou traverse, selon les versions, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Il a ici une qualité de relation, une qualité d'intimité. David ici vraisemblablement a progressé dans son intimité, dans sa connaissance pratique, précise. La vie chrétienne, c'est pas de la théorie. La vie chrétienne, c'est du pratico-pratique, c'est du pragmatique. Il a grandi dans sa connaissance pratique du berger qui lui permet de tout traverser, de tout surmonter, et de sortir vainqueur de tout ce qui devrait avoir raison de lui. Dans la vallée de l'ombre, de la mort, cette vallée, elle est sombre, cette vallée est dangereuse, c'est réellement ce qui devrait anéantir mon âme. Mais béni soit Dieu, David n'a pas dit, ça nous plaît moins, David n'a pas dit, si un jour je marche, non, il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Parce que comme on l'a déjà évoqué, forcément, les mots, M-A-U-X, et les mots, M-O-T-S, Les mots sont inévitables, on le sait. Et dans les moments de difficulté, d'adversité, d'épreuve, de blessure, d'injustice, tous ces mots et tous ces mots dont nous avons déjà parlé, inévitables, nous y sommes régulièrement confrontés dans notre marche chrétienne. On ne vit pas tout le temps dedans, merci Seigneur. Mais nous y sommes confrontés régulièrement et on avait vu ensemble que David avait traversé des moments difficiles dans sa vie. Et je veux partager avec vous une lecture complémentaire. On va lire le psaume 57, qui est réellement un exemple, un moment de la vie de David où il était littéralement, pas seulement spirituellement, mais il l'était aussi physiquement dans cette vallée de l'ombre de la mort. Psaume 57, et on va tirer des enseignements, comme ça je vais rester très pratico-pratique sur ce qui se passe pour nous dans cette vallée de l'ombre de la mort. Psaume 57, évidemment c'est David qui écrit un hymne au chef des chantres, ne détruit pas, hymne de David. Et là on a le contexte, vous pouvez le rattacher à 1 Samuel 22. Quand il se réfugia, lorsqu'il se réfugia dans la caverne, poursuivi par Saül. Donc là, on sait qu'il est réellement dans la vallée de l'ombre de la mort, pas seulement spirituellement, mais il y est même physiquement, parce que c'est sa vie, littéralement, qui est en jeu dans tous les sens du terme. Aie pitié, j'aime pas trop cette traduction, compassion serait beaucoup plus probant, et compassion de moi, ô Dieu, et compassion de moi, car en toi, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. David dit Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi les lions. Je suis couché au milieu de gens qui vomissent la flamme, au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi sur les cieux, mon Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, mon âme se courbait. Ils avaient creusé une fosse devant moi, mais ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi, je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, mon âme, réveillez-vous, mon luth, ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, parce que ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité va jusqu'aux nuées. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Amen. On peut pas s'ennuyer quand on lit la Bible. C'est pas possible. Si on la lit avec son cœur, ça doit vibrer à l'intérieur. Ce psaume 57, ici, David est dans la même logique, on a la même démarche, le même ordre de priorité, le même homme qui a la même lucidité sur ce qui est urgent et même ce qui est extrêmement important. La priorité dans cette vallée d'ombre de la mort, la priorité, c'est Dieu. Et lui, la priorité, de la même façon que la priorité c'était la table, ici la priorité c'est Dieu et moi. La priorité c'est pas de savoir ce que je vais faire, ce que je vais devenir demain, comment ça va se régler. La priorité c'est que je trouve dans sa présence le refuge dont mon âme a besoin. Il est tout de suite question de son âme. Il faut absolument, vu ce qui m'arrive, la priorité des priorités c'est de préserver la vie de mon âme. En toi, mon âme cherche un refuge. Et je me réfugie, Seigneur, à l'ombre de tes ailes. C'est une image pour me parler de sa présence. Évidemment, ici, à l'ombre de tes ailes, va me parler de l'intimité. On verra aussi tout à l'heure que ça me parle de protection, bien sûr. Mais ça me parle aussi d'intimité. Je ne peux pas être plus proche que sous les ailes de mon Seigneur, que de mon Dieu. Il y a une intimité de l'âme ici avec le Créateur. La situation, elle est décrite, les mots sont très forts, la situation est catastrophique, il n'y a pas d'autre mot. Ce qui se joue ici est une tragédie avec un enjeu de vie ou de mort, mais pour l'instant ça sent beaucoup plus la mort que la vie, au niveau humain, humainement parlant, on est bien d'accord. La situation est critique. La pression qui est engendrée sur David est terrible. Il parle de calamité, ou alors il y a des mots M-A-U-X, encore une fois, et des mots M-O-T-S. Il parle de calamité au verset 2, verset 5, rendez-vous compte. Mon âme est parmi les lions. On ne dit pas ça tous les quatre matins, généralement. Hein. Mon âme est parmi les lions. Ce qui laisse entendre l'agressivité. C'est bien plus que de la méchanceté, l'agressivité, parfois même la haine, la force de ceux qui sont contre lui. Et puis il n'y a pas seulement ces mots, il y a aussi des mots. Mon persécuteur se répand en outrage, verset 2. Verset 5, c'est pas tous les jours ça en même temps, heureusement. Hein. Des gens qui vomissent la flamme. Leur langue est un glaive tranchant, encore le verset 5. Ce qui laisse vraiment entendre la puissance, la méchanceté, la violence, on va dire, c'est la violence des paroles qui sont contre lui. Et là, à ce moment-là, l'âme de David, elle est profondément affectée. Et puis c'est normal, il y a de quoi. Si je vis le cœur dans le ciel et que le ciel est dans mon cœur, j'ai quand même bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules. Hein. Je vous ai toujours dit, je vous dirai toujours, la foi, c'est pas du déni. Hein. La foi, ce n'est pas de se mettre la tête dans le sable. Les auteurs bibliques, jamais ne se sont mis la tête dans le sable. Ils ont toujours exprimé les choses à la réalité, à la juste mesure de la réalité humaine. Et ensuite, ils ont trouvé, par le moyen de la foi et par des bons sentiers de justice, ils ont trouvé un Dieu infiniment plus grand que ce qui était réellement catastrophique. C'est ça la pensée biblique. Une âme qui est profondément affectée. Et il y a de quoi ? Mon âme se courbait. C'est l'âme qui est affectée, c'est la vie intérieure qui est en jeu. Et l'âme, elle est en train de s'abattre, elle est en train de dépérir, elle s'enfonce, elle se meurt petit à petit, comme un certain Jérémie dont on parlera bientôt. Quand je pense à ma détresse, à l'absinthe, à ma misère, au poison, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux me rappeler, etc. Et là, son âme, elle se courbe. C'est l'âme qui est en train de mourir petit à petit. Il y a danger. Et là, il faut réagir. Et il ne faut pas réagir n'importe comment. Et David, heureusement, oui, David a bien réagi, à nouveau en privilégiant cette intimité, en trouvant un refuge dans la présence de Dieu, en allant se mettre à l'ombre de ses ailes, c'est-à-dire dans son intimité. Et c'est là qu'on va voir quatre points essentiels où là, même dans la vallée de l'ombre de la mort, David a manifesté, il a reçu de Dieu et il a manifesté une réelle assurance. Je le redis, frères et sœurs, comme je vous l'avais montré il y a quelque temps, si David, avec tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a subi, a été maintes fois restauré, maintes fois réparé, maintes fois remis sur pied, n'importe qui peut vivre une belle restauration. Et même si nous, je l'espère, nous ne sommes pas littéralement, humainement parlant, physiquement, nous ne sommes pas en danger de mort, nous ne sommes pas menacés physiquement, on sait très bien qu'il y a des moments, il y a des mots qui font beaucoup plus mal que des mots. Les mots, la douleur, la peine, les blessures, tout ce qui a pu toucher notre corps, on finit par... Mais les mots M-O-T-S, leur langue est un glaive tranchant. Quand des paroles acérées, des paroles méprisantes, des paroles destructrices ont été proférées. Ces paroles, c'est pire que les blessures physiques. Les paroles sont capables de s'imprégner dans l'âme. Et puis le souvenir reste, ça nous marque, ça nous imprègne avec une telle précision parce que nos paroles sont puissantes. Ça se met en nous avec une telle puissance, c'est gravé, c'est imprégné. 10 ans, 20 ans, 30 ans après, vous vous souvenez plus de votre bras cassé, de votre jambe cassée, de vos douleurs d'accouchement, de votre blessure, de votre clavicule cassée dans l'accident de voiture. Tout ça, vous en avez un vague souvenir, mais tout ça, c'est passé. Par contre, quand on vous a dit des choses blessantes, 30 ans après, c'est gravé à l'intérieur et ça ressort comme ça. Tu te rends compte, on était là, on était dans le temps, voilà, et je me souviens, il m'a dit ça. Une phrase. Je me souviens, comment est-ce qu'elle a pu me sortir ça et ça? Des paroles acérées qui vont affecter l'âme et la renverser, la choquer. Et là, il y a un risque de s'égarer, il y a un risque de sombrer, il y a un risque de mal réagir, il y a un risque d'entretenir la blessure, il y a un risque d'envenimer les choses. David a bien réagi. Réveille-toi, mon âme. Je vais vous parler de ces quatre points maintenant. Je termine juste ça. David a bien réagi. Réveille-toi, mon âme. Une fois de plus, peu importe ce que je vis, peu importe ce que j'ai vécu, ce que je traverse maintenant, peu importe, mon âme ne doit jamais prendre les décisions. Une brebis navrée, le Seigneur n'a pas dit « vous êtes des aigles », il a dit « vous êtes mes brebis ». Le propre d'une brebis, je vous l'ai dit, elle est incapable de se remettre sur pied toute seule sans son berger. Le propre d'une brebis, c'est qu'elle est myope, donc elle est incapable. Brebis, mon âme, la brebis que je suis, n'est pas faite pour décider. Elle est faite pour obéir, non pas à la voix du pasteur, parce que le pasteur n'est pas le patron. Elle est faite pour obéir à la voix de son berger. Elle est faite pour écouter. Une brebis est faite pour suivre. Elle est faite pour suivre le berger. C'est sa vocation, c'est sa raison d'être. Et réveille-toi, mon âme, parce que mon âme ne doit surtout pas décider de ce qui va être fait ou pas fait. Il prend son âme et il l'amène, il l'empêche de sombrer. Réveille-toi, c'est une image comme quand dans le psaume 13, il dit « Seigneur, je te prie que je ne m'endorme pas dans cette situation » quand il dit, psaume 13, « Jusque à quand, ô éternel, mon ennemi va-t-il s'élever contre moi ? Jusque à quand est-ce que je vais avoir du chagrin dans mon âme ? Jusque à quand est-ce que mes larmes vont être ma nourriture quotidienne, etc. » Et quand David dit ces choses, psaume 13, à un moment aussi, il dit « Seigneur, donne à mes yeux la clarté, il faut que je voie cette situation comme toi tu la vois. » Et Seigneur, il ne dit pas « Réveille-toi mon âme », mais on sent ce besoin et puis cette volonté de ne pas laisser son âme diriger les choses. « Seigneur, que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort », c'est-à-dire que cette situation n'est pas raison de moi. Que cette situation n'est pas raison de moi. Réveille-toi, mon âme, parce que derrière l'image du sommeil dans la Bible ou l'image de l'éveil, c'est la question de la mort spirituelle. C'est ça que ça symbolise. Réveille-toi, mon âme, parce que sinon tu vas mourir là-dedans. Il faut réagir, il faut se secouer, il faut empêcher l'âme de sombrer, il faut l'empêcher de prendre la direction des opérations. Sinon, si tu n'amènes pas ton âme au divin berger, très vite, tes ennemis et toi-même aller avoir raison de ton âme. Et là, dans cette intimité qu'il a trouvée, cette intimité dans laquelle, je le dis même, il a progressé avec le berger, David, avec une âme fortifiée, va lui permettre d'avoir une assurance renouvelée. Il y a quatre choses qui ressortent au niveau de l'assurance de David dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a quatre choses fortes qui ressortent. Ce que je vais vous dire, c'est très simple, mais ce n'est pas si évident à vivre au quotidien, surtout quand ça va mal. Quand tout va bien, première chose, Dieu est souverain. Quand tout va bien, je n'ai pas de mal à croire que Dieu est souverain. Tout va bien. Mais quand je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, David reçoit cette assurance, il me le communique, il me le dit, il me le véhicule, cette assurance, premièrement, que toute adversité, quelle qu'elle soit, reste toujours sous le contrôle souverain de Dieu. Toute situation, quelle qu'elle soit, reste toujours sous le contrôle souverain de Dieu. Ce n'est pas des évangélismes disgracieux, Ce ne sont pas des ritournelles de dire « Oh Dieu très haut, oh élève-toi sur les cieux, oh Dieu ». Non, c'est dans ce langage vétérotestamentaire, c'est une façon pour lui de confesser que Dieu, El Elyon, le très haut, c'est une façon pour lui de dire « Seigneur, je manifeste ma foi en toi parce que je crois que tu es au-dessus ». Qu'est-ce que ça vient faire là ? Élève-toi sur les cieux, oh Dieu. David, il ne sait pas que Dieu est au-dessus des cieux. Bien sûr que si, il le sait depuis très longtemps. Mais là, il est simplement en train de confesser, verset 3, verset 6, verset 12, la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu sur toute circonstance. La souveraineté de Dieu sur toute personne. La souveraineté de Dieu sur l'ennemi de nos âmes. Le diable est enchaîné dans une chaîne éternelle. Amen. Allô, bonjour. Vous êtes arrivés, je suis content, c'est bien. Pharaon et son armée. Pharaon, c'est un type de l'ennemi. Dieu dit Pharaon et son armée, je les permets parce qu'ils vont servir à faire éclater ma gloire. Nebuchadnezzar, ce mégalomane dégénéré, il n'y a pas d'autre mot, désolé. Dieu l'appelle dans le livre de Jérémie, Nebuchadnezzar, mon serviteur. Et jusqu'à ce que son temps soit passé, je l'évincerai et je mettrai un autre à sa place. Dans chaque situation, bien-aimée, ne perdons jamais de vue que Dieu est souverain. Lorsque Joseph, on en reparlera bientôt pour d'autres aspects, lorsque Joseph retrouve ses frères, parce que merci Seigneur, il y a eu un dénouement heureux, lorsque Joseph retrouve ses frères, il leur dit « Ne vous affligez pas de m'avoir fait le mal que vous m'avez fait. » Oui, vous m'avez fait du mal, je vous le dis, c'est vrai. Il n'a pas dit « Ah non, c'est pas si grave. » Non, non, il a dit « Vous m'avez fait énormément de mal, mais ne vous affligez pas du mal que vous m'avez fait. » Déjà, Dieu l'a changé en bien. Et puis il leur dit « C'est pas vous qui m'avez emmené dans cette prison. » Enfin, cette déportation, l'Égypte, la prison, etc. C'est pas vous qui m'avez amené ici. Pourtant, c'est bien eux qui l'ont. C'est pas vous qui m'avez amené ici. C'est Dieu. Parce qu'il veut me se servir de moi pour vous faire vivre maintenant une grande délivrance. Joseph est un type de Christ. Et là, on est dans du niveau plus, en termes de spirituel. On est dans du très high level, vraiment. Ce n'est pas vous qui m'avez emmené ici, c'est Dieu. Joseph savait reconnaître la souveraineté de Dieu et la main de Dieu, même sur le pire. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est enregistré, hein, je reconnais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais c'est biblique. Quand Daniel, 17 ans, 16, 17 ans, déporté avec ses juifs, ses milliers de captifs et ses amis, il se retrouve loin de tout. Il n'a plus rien, il n'a plus personne à part trois potes. Et là, Nebuchadnezzar a organisé son petit lavage, son petit programme pendant 3 ans et demi, un petit lavage de cerveau. Il va essayer de les amadouer, il va essayer de les acheter, de se les mettre dans la poche pour qu'ils le servent. Et puis quand Daniel se retrouve devant Nebuchadnezzar, ce mégalomane dégénéré, qui a puis autorité, puissance de vie ou de mort sur lui, sur tous ces jeunes gens, la première chose que Daniel fait, il regarde Nebuchadnezzar en face, il dit « C'est Dieu qui donne la sagesse et l'intelligence. C'est Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est Dieu qui renverse et qui établit les rois. Et tu vas apprendre au roi Nebuchadnezzar. » Il avait 17 ans le gamin, 17 ans. « Tu vas apprendre au roi Nebuchadnezzar que le Très-Haut, El Elyon, domine sur le règne des hommes, et il le donne à qui il lui plaît. » Et Nebuchadnezzar a appris à ses dépens que Dieu donne le règne à qui il lui plaît, et qu'il domine sur le règne des hommes. Et Daniel, la première chose qu'il fait, c'est de confesser la souveraineté de Dieu. Lorsque Jésus est devant Ponce Pilate, un des membres de cette conspiration, de cette farce, ce faux procès, dans lesquels Jésus a été entraîné, mais c'était l'accomplissement d'un plan, il le fallait, on le sait. Mais tout ce procès est totalement fallacieux, falsifié. Jésus est devant Ponce Pilate et Ponce Pilate lui dit « D'où es-tu ? » Puis Jésus ne répond pas. Alors, Ponce Pilate, très bien de sa petite personne, orgueilleux qu'il était. Est-ce à moi que tu ne réponds pas? Ne sais-tu pas que j'ai sur toi pouvoir de vie ou de mort? Que j'ai le pouvoir de te faire crucifier ou de te faire relâcher? Et Jésus lui dit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir si cela ne t'avait été donné d'en haut. La première chose que Jésus fait dans l'heure la plus sombre de sa vie, c'est de repositionner la souveraineté de Dieu, même au-dessus d'un gars comme Ponce Pilate. La souveraineté de Dieu, frères et sœurs, dans la pensée biblique et dans nos vies, la pensée de Dieu, la souveraineté de Dieu, pardon, ce n'est pas un concept. La souveraineté de Dieu, c'est une révélation. Si la pensée que Dieu est souverain, qu'il règne, qu'il est dans un trône, assis sur un trône qui est inébranlable, et qu'il est à la tête d'un royaume éternel, si la pensée que Dieu est souverain sur tout et sur tous n'apaise pas et ne calme pas ton âme, si ça ne t'aide pas à mieux dormir, que Jésus soit souverain sur tout et sur tous, pardonne-moi mon bien-aimé, c'est que la souveraineté de Dieu, c'est plus un concept dans ta tête qu'une puissance de vie dans ton cœur. Parce que je vous garantis, quand on sait, même dans la souffrance, quand on sait que Dieu est souverain, je vous garantis, qu'est-ce qu'on dort bien? La souveraineté de Dieu. Un jour, une anecdote, cette histoire est authentique. Il y avait une petite fille qui était dans un avion, et puis je ne sais plus, peu importe où allait l'avion. Et puis, pendant que l'avion est en vol, il y a une zone de turbulence qui se crée, et puis là, ça commence vraiment à tonner, ça commence à gronder, la carlingue est secouée, il y a des bruits, les masques à oxygène tombent, les lumières de secours s'allument, etc., comme des fois ça arrive dans les avions. Et la zone de turbulence est terrible, et puis là, il commence à y avoir des cris, des mouvements de panique. Les hôtesses de l'air, elles font ce qu'elles peuvent pour rassurer un tel, apporter une couverture, ceci, mettez vos ceintures, mettez-vous comme ça, etc. Et les hôtesses font ce qu'elles peuvent pour calmer tout le monde, ça commence à crier, il y a la panique là-dedans. Et puis l'hôtesse, à un moment, elle voit sur le côté, là, elle voit une petite fille qui est assise, puis qui ne crie pas, qui ne bouge pas, qui est sereine, qui a l'air sereine. Et puis l'hôtesse se dit, oh ben elle est déjà morte de peur, elle est tétanisée, elle doit être comme ça. Donc l'hôtesse va vers elle s'approche, elle lui dit, mais dis-moi petite, ça va? Oui, ça va madame. Mais tu n'as pas peur? Ben non madame, j'ai pas peur. Mais comment tu fais pour pas avoir peur? Ben madame, c'est mon papa qui pilote. Voyez frères et sœurs, si on avait la révélation que c'est notre Papa Céleste qui pilote tout. Quelle paix! C'est lui qui pilote. David a dit, quand je traverse, quand je marche, bien sûr que j'y marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, mais je crains aucun mal, parce que tu es avec moi. La deuxième révélation que David va apporter ici dans ce texte, ah, merci Seigneur, c'est que toute adversité, quelle qu'elle soit, a nécessairement un terme. À moins que je me plaise consciemment ou inconsciemment à envenimer les choses, à prolonger les déserts et à aggraver les tempêtes. Mais dans la pensée de Dieu, dans la pensée biblique, David l'a compris. Jusqu'à ce que je cherche en toi un refuge, jusqu'à ce que les calamités soient passées. David n'a pas dit, en espérant qu'un jour ça s'arrange. Non, il a dit, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Parce qu'elles vont passer, parce que la pensée de Dieu, l'épreuve, je ne vais pas vous faire tout un message sur l'épreuve, mais dans la pensée de Dieu, Dieu n'éprouve pas pour éprouver. Dieu éprouve, il y a des épreuves, de l'adversité, des tentations, il y a une pédagogie divine derrière tout ça, parce qu'il veut me faire grandir, on en parlera aussi. Dieu veut m'emmener à sa mesure spirituelle, on en parlera aussi. Mais ce qui est important de comprendre, bien-aimés, c'est que Dieu, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui a un tel respect, une telle douceur, une telle prévenance pour nos âmes. Dieu ne permettra jamais que nous soyons éprouvés ou tentés au-delà de nos forces. Et ce qui a autorité dans ma vie, dans mes pensées et dans mon sommeil, c'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas les impressions qui se dégagent de ce que je vis, de ce qu'il y a autour de moi. Ce qui a autorité dans ma vie, c'est ce que la parole de Dieu dit. Je lis pour vous. On connaît, j'espère certainement, ce passage de 1 Corinthiens 10-13. Je le lis pour vous. Est-ce que je l'ai mis ici? Oui, je l'ai mis, voilà. Mais je vais vous le lire, mais dans la traduction, traduction Semeur, qui est quand même un peu plus explicite que version NEG ou LSG, peu importe. Les tentations, alors comprenez bien que dans la pensée biblique, dans l'original, que vous lisiez dans vos Bibles le mot tentation ou le mot épreuve, c'est la même chose, c'est la même racine. Dans la pensée, c'est la même racine. Parce que à chaque épreuve est toujours liée une tentation. À chaque épreuve, il y a toujours un moyen d'en sortir. Il y a toujours un chemin divin pour m'amener à. Mais il y a toujours aussi un chemin de l'ennemi pour m'amener à. Ok. Donc, épreuve ou tentation, c'est la même chose dans la pensée biblique. En réalité, j'ai pas pris le grec exact à ce moment-là, mais c'est la même racine. Peu importe la traduction, c'est la même racine. Épreuve, tentation, tentation, épreuve, c'est pareil. Les tentations, les épreuves qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. Ça ne me console pas. Je ne me suis jamais consolé en considérant le malheur des autres. Mais le Seigneur est en train de dire ici que c'est normal. D'ailleurs, Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés ou tentés au-delà de vos forces. Au moment de l'épreuve ou de la tentation, pareil, au moment de l'épreuve, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Amen. À toute épreuve, quelle qu'elle soit, mon frère, ma sœur, Dieu, dans toute épreuve, a mesuré, parce qu'il est sage, parce qu'il est amour, parce que l'épreuve que tu traverses n'est pas incompatible avec la bonté, la fidélité de Dieu. Oui, l'ennemi de ton âme te dit, Dieu n'est peut-être pas aussi bon et aussi fidèle que ce que le pasteur dit. Mais la parole de Dieu est claire. L'épreuve n'est pas n'est pas antagoniste avec la bonté et la fidélité de Dieu. Dans sa bonté, dans sa fidélité, Dieu a mesuré déjà l'intensité de l'épreuve, la force de l'épreuve. Il a mesuré l'intensité de l'épreuve et il a mesuré aussi la longueur de l'épreuve. Et il a préparé l'issue. Dans toute adversité, quelle qu'elle soit, peu importe ce que vous vivez, Dieu a mesuré l'intensité, il a promis, j'irai pas au-delà d'un certain point. Il a mesuré l'intensité, il a mesuré la longueur, et il a déjà préparé l'issue pour en sortir. C'est pour ça que les sentiers de la justice sont tellement importants, parce que ça me permet de ne pas perdre de temps dans des endroits qui sont hyper désagréables et de sortir le plus vite possible de ce que... J'apprends ce que j'ai à apprendre. Merci Seigneur, je prends le sentier de la justice et je prends l'issue et j'en sors grandi, béni, plus fort après qu'avant. On est toujours plus grand après l'épreuve qu'avant. Merci Seigneur, ton objectif s'est accompli dans mon âme. Et là, David a cette assurance que toute adversité a toujours un terme. Il m'enverra, il n'a pas dit j'espère que Dieu va me gérer un truc. Dieu m'enverra du ciel le salut. Et là, ce n'est pas le salut pour être sauvé de ses péchés, hein, c'est le secours. Dieu m'enverra du ciel le secours. Et ce n'est pas peut-être. Ils avaient creusé une fosse, ils y sont tombés. Moi, je me réfugie en toi, Seigneur, et ceux qui veulent du mal à ma vie, c'est toi qui vas les gérer. Troisième chose que David est en train de me dire ici, il me dit, Steph, c'est à Dieu d'agir. C'est à Dieu d'intervenir. C'est pas à toi. Il faut que tu lâches ça. Je ne sais pas ce qu'il faut que tu lâches, mais il faut que tu lâches. Il faut que tu lâches prise. Tu as la dent dure. tu vas te faire mal. Tu vas te casser les dents. Tu es en train d'aggraver les choses. Tu es en train de mettre un temps considérable pour essayer de gérer ou de régler des choses que Dieu réglera de toute façon comme il veut, quand il veut, en son temps. Quand tu seras prêt, quand tu auras appris ce que tu dois apprendre, Dieu va régler ce qu'il a à régler parce qu'il est fidèle. Je crie au Dieu, je peux implorer Dieu, je peux crier à Dieu, je peux pleurer à Dieu. J'invoque Dieu. Tu fais ce que tu as à faire dans ta chambre, mais va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Va chercher la présence de Dieu. Je me réfugie, j'implore Dieu, j'invoque le Dieu qui agit en ma faveur. L'idée, c'est toujours la même, c'est que je prenne mon âme oppressée, que je l'enferme dans la présence de Dieu et que je laisse Dieu gérer ce qu'il a à gérer. Et comme ça, je lui laisse à lui le soin d'agir. C'est à Dieu d'agir. C'est à Dieu d'intervenir. Nous, qui sommes des, en tant qu'humains, qui sommes des maniaques de la gestion, des maniaques du contrôle, on veut toujours tout gérer, on veut toujours tout contrôler. Mais c'est pas logique. Pourquoi voulons-nous sans cesse trouver des réponses, des solutions, gérer, contrôler, amener, avoir raison, etc. à des situations et des gens qui sont sous le contrôle de Dieu? S'ils étaient sous ton contrôle, ben ça se saurait. Ils sont sous le contrôle de Dieu. Donc lâche ça. Et David me dit ici, c'est à Dieu d'agir. J'implore, j'invoque, je crie, je pleure au Dieu qui agit en ma faveur. Il agira comme il veut, il agira quand il veut. S'il a envie d'attraper Aman et puis de le mettre sur la potence qui était destinée à Mardoché, amen. S'il a envie de couler Pharaon dans la mer, amen. S'il veut retourner Nebuchadnezzar pour qu'il regarde au ciel, amen. S'il veut, alors qu'ils ont creusé une fosse, qu'il tombe dans le trou qu'ils avaient creusé pour moi. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et pardon, il n'a pas besoin de moi. Il a besoin de mon cœur. Il a besoin que je sois à ses pieds. Mais le reste, il n'a pas besoin de moi. Et David me dit, ce sera son action. Mais ce sera son action quand tu arrêteras. Arrête, arrête. Tu t'arrêtes pas, tu parles, tu agis. Tu es dans le passage. Et Seigneur, agis. Oui, je veux bien agir, mais tu pourrais te pousser, s'il te plaît, que je puisse passer là. C'est son action. C'est son œuvre. Pousse-toi, tu gênes. Tu m'empêches de faire ce que j'ai à faire. C'est son action, c'est son œuvre, c'est son secours, c'est sa délivrance. Dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est sa délivrance. Et au même titre que Dieu est bon et qu'il est fidèle, Dieu agira en ma faveur. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité, verset 4. Verset 11, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Immense, infinie bonté de Dieu, c'est sa nature. Mais encore faut-il que moi je n'entrave pas son action. Je vous ai dit que de plus en plus souvent, en avançant dans la vie de disciple, parce qu'avant d'être pasteur, je suis disciple comme vous, de plus en plus en avançant dans la vie de disciple et dans la vie du ministère pastoral, plus le temps passe, plus je me rends compte que je ne suis rien sans lui. Je n'ai rien et je ne peux rien. Et quand Jésus dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire », ce n'est pas une petite phrase en passant, hein. Vous ne pouvez rien faire. Et puis je réalise aussi, des fois je prie comme ça au Seigneur, je suis peut-être un peu fou. Je dis, Seigneur, c'est toi qui construis, c'est toi qui bâtis l'église. C'est toi l'architecte, c'est toi le souverain, c'est toi le patron. Seigneur, merci, c'est un tel privilège d'être dans ta vie, d'être dans ton église, d'être dans ton œuvre, d'être ses membres du corps. C'est un tel privilège. Seigneur, je voudrais juste faire ce que tu veux que je fasse au moment où je le fais. Mais fais-moi cette grâce, je voudrais pas te gêner quand tu bosses, Seigneur. Seigneur, je voudrais pas entraver. J'ai pas envie de te gêner dans tes manœuvres, dans ton mouvement. Je voudrais juste faire ce que tu veux que je fasse au moment où je le fais, puis après je me pousse. Seigneur, fais-moi cette grâce que jamais je sois un frein dans ton œuvre. que jamais je casse avec mes pensées, avec ma langue, avec mes attitudes. Que jamais, Seigneur, je vienne casser ce que toi t'essayes de construire. Seigneur, je ne voudrais pas te gêner. Je ne veux pas entraver. C'est à Dieu d'agir. C'est à Dieu d'intervenir. Vous lirez Romains 12, les versets 18 à 21 à la maison, vous verrez, c'est très édifiant. Mais j'avance parce qu'on va célébrer la scène. Et ce dernier point, dans la vallée de l'ombre de la mort, David a aussi cette assurance que Dieu reste le gardien et le protecteur de son âme. Bien sûr, il ne permettra pas que je sois éprouvé au-delà de mes forces, pas plus longtemps qu'eux, l'issue est prête. Mais ici, il faut bien comprendre cette assurance de David que le Seigneur, à partir du moment où je me suis mis dans sa présence, où j'ai trouvé mon véritable refuge, à partir de ce moment-là, David peut dire, dans ce contexte-là, il peut dire, parce qu'il est à l'ombre de ses ailes, à ce moment-là, il peut dire, je ne crains aucun mal. Vous savez, quand on a aussi une très mauvaise interprétation souvent de ces textes, je ne crains aucun mal. Quand vous lisez le psaume 27, David dit « Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur ». Puis vous avez souvent des gens, ils ont pensé que sur la base de ces textes-là, il leur arriverait rien ou si peu, ou que quand il arrive quelque chose, hop, une petite prière au nom de Jésus et tout est réglé. Et quand David dit « Je ne crains aucun mal », quand dans le psaume 27, il dit « Il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente », c'est encore une image de sa présence. C'est pas au sens, frères et sœurs, où c'est pas au sens où il m'arrivera rien. C'est au sens où mon âme, c'est la vie de l'âme qui est en jeu, c'est du spirituel. C'est au sens où l'âme va être gardée, protégée, afin qu'elle ne meure pas. David dit bien, je ne crains aucun mal, mais il a bien dit, quand je marche, quand je traverse, alors ce n'est qu'une traversée, mais il faut la traverser. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, donc oui, il m'arrive des choses. Quand dans le psaume 27, il dit « Il me protégera dans son tabernacle », il a bien dit « Au jour du malheur », parce qu'il y en aura. Ici, il est question de la protection de l'âme. « En toi, verset 2, mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. » Si l'ombre des ailes du Seigneur me parle d'intimité, elle me parle aussi de protection. Et voyez encore quelque chose qui me plaît énormément chez David ici. L'homme qui est lucide sur les besoins les plus urgents, sur les besoins les plus importants. L'homme qui est lucide sur ce qui est important, sur là où se trouve la véritable protection, les véritables enjeux. David sait que son véritable refuge, sa véritable sécurité, c'est pas la caverne d'Adullam. C'est pas la caverne dans laquelle il s'est enfermé. Psaume 139, il dit « Si je prenais les ailes de l'aurore et que j'aille habiter aux extrémités de la terre, de toute façon tu serais là, Seigneur. » La véritable protection, c'est pas ce que tu te construis. Ce sont pas les murs que tu ériges. Ce sont pas les cavernes spirituelles dans lesquelles tu t'enfermes. Bientôt, on parlera d'Élie qui a dû sortir de sa caverne. J'en ai des choses à vous dire, je vous garantis. Il y en a pour un moment. La véritable protection, ce sont pas les murs et les carapaces, les cavernes que je me construis, dans lesquels je me réfugie. La véritable protection, c'est la présence de Dieu. C'est ça son véritable refuge. David sait, d'ailleurs la caverne, il n'y est pas resté, il en est sorti avec ses hommes, il a poursuivi sa route. David sait que sa véritable protection, c'est pas la caverne, ça c'est du matériel, mais que c'est la présence de Dieu, c'est ça son véritable refuge. Parce que David a bien réagi, c'est ma conclusion, son âme, dans la présence de Dieu, a été fortifié et a trouvé de nouvelles, j'insiste sur le mot, de nouvelles révélations de cœur, une nouvelle assurance, parce qu'il a su amener son âme à son berger, trouver refuge dans sa présence. Non seulement son âme a été remise sur pied, réparée, fortifiée, mais il peut dire « Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi, réveille-toi mon âme, réveillez-vous ma lutte, ma harpe, ça c'est une image encore, une métaphore pour parler de la louange. Loue Dieu, loue le Seigneur. C'est une façon de dire, non, je ne laisserai pas cette situation avoir raison de moi. Mon Dieu est au-dessus. Il est au-dessus des temps, au-dessus des circonstances, au-dessus des gens, au-dessus des chrétiens. Il est au-dessus des pasteurs, il est au-dessus de la nuit de ce monde, il est au-dessus des hommes, des autorités. Il est au-dessus, il est au-dessus. Je le sais, vous le savez. Mais mon frère, ma sœur, que veille à ce que Dieu reste bien au-dessus de toi. Qu'il reste aussi au-dessus de tes incompréhensions. Que le Seigneur aussi reste dans ton cœur, dans tes pensées, qu'il reste au-dessus de tes blessures, qu'il reste au-dessus de tes moments de doute. Mon cœur est affermi, mon cœur est affermi, ô Dieu, réveille-toi, ma lutte, ma harpe. C'est une façon de dire, je ne laisserai rien m'empêcher de louer Dieu, je ne laisserai rien dans cette vie m'empêcher d'avoir la connexion que je dois avec Dieu et de lui rendre ce qui lui est dû. David exprime ici tout le bien que Dieu lui a fait intérieurement, humainement parlant, rien n'est réglé. Psaume 13, psaume 23, psaume 57, humainement parlant, ce n'est toujours pas réglé. Dans les circonstances, il semblerait que Dieu n'ait encore rien fait. Mais par contre, le Seigneur lui a fait un bien à l'intérieur. Il a été visité, il a été renouvelé et son âme est debout. Son âme est forte, elle est vivante, elle est en bonne santé, il peut louer Dieu. Oui, rien n'est réglé à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça y est, il est plus que vainqueur. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Amen. On se reconnaît.